Chapitre 8. La reine s'éveille. Oh, d'aucuns s'en vont chasser le sanglier, ou tendent l'arc pour le daim. Mamie accompagnait la reine renarde pour apaiser nos chagrins. Elle ne rêvait pas de gloire, ni ne craignait la douleur. Elle allait guérir le cœur de son peuple, et mamie l'accompagnait. La chasse de la reine renarde. Tôt le lendemain matin, le château était en ébullition. Il y avait une atmosphère fiévreuse, voire presque festive dans la cour, tandis que la garde personnelle et tous les guerriers qui n'avaient rien de prévu ce jour-là se rassemblaient pour la chasse. Les matins énervés donnaient de la voix, et les chiens de curé aux mâchoires massives et aux poitrailles de taureau haletaient, tout excités, en tirant sur leurs laisses. On prenait déjà des paris sur qui aurait le plus de succès à la battue. Les chevaux piétinaient la terre, on vérifiait les arcs, les pages couraient en tous sens et, dans les cuisines, la moitié du personnel s'affairait à préparer pour les chasseurs des paquets de ravitaillement à emporter. Des soldats, jeunes, vieux, hommes, femmes, fanfaronnaient, éclataient de rire en se vantant de combats passés, comparaient leurs armes et s'excitaient mutuellement pour la chasse à venir. J'avais vu ce spectacle 100 fois. Avant les chasses d'hiver à l'élan ou à l'ours. Mais aujourd'hui, l'air était tendu, et il y flottait les relents âcres de la soif du sang. J'entendais des bribes de conversation, des mots qui me mettaient l'estomac au bord des lèvres. Pas de pitié pour ces ordures. Tous des traîtres et des lâches d'oser s'en prendre à la reine. Vont le payer cher, ils ne méritent pas de mourir vite. Je battis promptement en retraite, dans les cuisines, et me frayait un chemin au milieu d'une activité de ruche. Là aussi, on exprimait les mêmes sentiments, la même volonté de vengeance. Je trouvais Vérité dans sa chambre aux cartes. Manifestement, il était toiletté et vêtu de frais, mais les incidents de la nuit écoulée se voyaient sur lui aussi clairement qu'une robe sale. Il était habillé pour passer la journée enfermé au milieu de ses papiers. Je frappai doucement à la porte entrebâillée. Il était assis dans un fauteuil devant le feu, me tournant le dos. Il hocha la tête sans me regarder. Malgré son immobilité, l'air était lourd dans la pièce, comme avant un orage. Un plateau de petit déjeuner était posé sur une table à côté de son siège. Il n'y avait pas touché. Sans un mot, je vins me placer près de lui, presque certain d'avoir été appelé par l'art. Comme le silence se prolongeait, je me demandais s'il savait lui-même la raison de ma convocation. Au bout d'un moment, je me risquai à parler. « Mon prince, vous n'accompagnez pas votre garde aujourd'hui ?» On eût dit que je venais d'ouvrir une vanne. Il se tourna vers moi. Les rides de son visage s'étaient creusées pendant la nuit. Il paraissait hâve, malade. « Non, je n'ose pas. Comment pourrais-je me prêter à une telle action? Chasser notre propre peuple, nos propres concitoyens. Mais l'autre terme de l'alternative ne vaut guère mieux. Rester tapis entre les murs du château à broyer du noir, pendant que d'autres s'en vont venger l'insulte faite à ma reine servante. Je n'ose pas interdire à mes hommes de défendre leur honneur. Aussi, dois-je faire semblant de n'être au courant de rien, de ne pas voir ce qui se passe dans la cour. Comme si j'étais un simple d'esprit, un paresseux ou un lâche. On écrira sans aucun doute une ballade sur ce jour, et quel en sera le titre? Quand Vérité massacra les décervelés? Ou bien la reine Kétrikène et le sacrifice des forgisés? À chaque mot, sa voix montait un peu plus, et avant qu'il eût prononcé la moitié de sa diatribe, j'avais résolument fermé la porte de la pièce. Je parcourus la chambre du regard, cependant qu'il tempêtait, en me demandant qui, à part moi-même, entendait ses propos. « Avez-vous dormi un peu, mon prince ?» manquis-je lorsqu'il fut à court de parole. Un sourire d'ironie lugubre lui détendit les lèvres. « Tu es au courant de ce qui a mis un terme à ma première tentative pour me reposer. La seconde a été moins engageante. » Madame est venue me trouver. Je sentis le rouge me monter aux oreilles. Je n'avais nulle envie d'entendre ce qu'il allait me dire. Je ne désirais pas savoir ce qui s'était passé entre eux. Dispute ou réconciliation, cela ne me regardait pas. Mes vérités étaient impitoyables. Elle ne venait pas pleurer sur mon épaule, comme on aurait pu le croire, ni se faire consoler, ni se faire rassurer contre des peurs nocturnes, ni même chercher à se tranquilliser quant à ma considération. Non. Elle s'est présentée raide comme un sergent qui vient de se faire réprimander au pied de mon lit. Et elle m'a demandé pardon pour ses manquements. Blanche comme la craie et dure comme le chêne. Il se tut soudain en s'apercevant qu'il se dévoilait trop. Elle avait prévu la réaction du peuple, cette battue organisée, et elle est venue me voir au milieu de la nuit pour me demander ce que nous devions faire. Je n'ai pas su répondre alors, pas plus qu'à présent. Au moins, elle avait prévu ce mouvement, fis-je en espérant calmer un peu sa colère contre Ketriken. Et pas moi, répliqua-t-il d'un ton sinistre. Chevalerie aussi y aurait pensé. Ah oui. Chevalerie l'aurait su dès l'instant où on aurait signalé sa disparition, et il aurait aussitôt dressé toutes sortes de plans pour parer à l'imprévu. Mais pas moi. Moi, je n'ai songé qu'à la ramener en vitesse au château, en espérant que l'affaire ne s'ébruiterait pas trop, comme si c'était possible. Et aujourd'hui, je me dis que, si un jour, la couronne vient à se poser sur ma tête, elle se trouvera bien indignement portée. J'avais devant moi le prince Vérité tel que je ne l'avais jamais vu. C'était un homme dont la confiance était en pièces. Je compris alors combien Ketriken lui était mal assorti. Ce n'était pas sa faute. Elle était forte, et elle avait été éduquée pour régner. Vérité, lui, disait souvent qu'il avait été élevé comme second. L'épouse qu'il lui aurait fallu aurait su l'affermir comme une ancre à navire, l'aurait aidé à assumer sa position royale. Elle serait venue pleurer dans son lit, se faire cajoler et rassurer, lui aurait rendu foi en sa virilité, en sa capacité à être roi. La discipline et la retenue de Ketriken le faisaient douter de sa propre force. Mon prince était humain, je m'en apercevais soudain. Et c'était inquiétant. Vous devriez au moins aller leur parler, fis-je d'un ton incertain. Pour leur dire quoi? Bonne chasse? Non. Mais vas-y, toi, mon garçon. Va, ouvre l'œil et rapporte-moi ce qui se passe. Vas-y tout de suite, et ferme la porte derrière toi. Je ne veux voir personne avant ton retour. J'obéis. En sortant de la grande salle, au moment d'enfiler le couloir qui menait à la cour, je rencontrai Royal. Il était rare de le voir debout à une heure aussi matinale, et à sa tête, il ne s'était pas levé de son plein gré. Bien habillé, bien coiffé, il lui manquait néanmoins toutes ses petites touches d'apprêt habituelles, ses boucles d'oreilles, son écharpe de soie soigneusement pliée et piquée d'une broche. Il ne portait que sa chevalière. Il s'était peigné, mais ses cheveux n'étaient ni parfumés ni bouclés, et il avait les yeux injectés de sang. Il était dans une colère noire. Comme je voulais passer à côté de lui, il me saisit par le bras et m'obligea à le regarder. Telle était du moins son intention. Loin de résister, je relâchai mes muscles, et je découvris avec ravissement qu'il était incapable de me faire bouger. Il se tourna vers moi, les yeux flamboyants, et dut, pour croiser les miens, les lever un tant soit peu. J'avais grandi et forci. Je le savais. Mais je n'avais pas songé à ce réjouissant effet secondaire. Je bloquai le sourire que je sentais apparaître sur mes lèvres, mais il dut se voir dans mon expression. Royal me donna une violente poussée qui me fit vaciller. Un peu. « Où est Vérité ? » gronda-t-il. « Mon prince ? » fis-je comme si je n'avais pas compris la question. « Où est mon frère ? Son abomination d'épouse ! » Il s'interrompit, étouffant de fureur. « Où est mon frère à cette heure habituellement ? » articula-t-il enfin, non sans mal. Je ne mentis pas. Certains jours, il monte très tôt à sa tour, mais il est peut-être en train de prendre son petit déjeuner, à moins qu'il ne soit au bain. « Bâtard inefficace ! fit Royal, avant de tourner les talons et de partir d'un pas pressé vers la tour. J'espérais que la montée des marches lui plairait. Dès qu'il eut disparu, je me mis à courir afin de ne pas perdre une seconde du précieux temps que j'avais gagné. À l'instant où je pénétrais dans la cour, je compris le motif de la colère de Royal. Etriken se tenait debout sur le siège d'un chariot, et toutes les têtes étaient tournées vers elle. Elle portait les mêmes vêtements que la veille. À la lumière du jour, je vis qu'une éclaboussure de sang tachait la manche de sa veste de fourrure blanche, et qu'une autre, plus grande encore, maculait son pantalon pourpre. Beauté, un chapeau sur la tête, elle était prête à monter à cheval. Une épée pendait à sa hanche. J'étais atterré. Comment osait-elle ? Je jetai un coup d'œil autour de moi en me demandant ce qu'elle avait bien pu dire jusque-là. Les yeux écarquillés, tout le monde la regardait. J'étais arrivé durant un moment de silence absolu. Chacun, homme et femme, paraissait retenir son souffle dans l'attente des paroles à venir. Et quand Ketriken les prononça, ce fut d'un ton posé, calmement. Mais la foule ne faisait pas un bruit, et la voix de la reine servante portait dans l'air glacé. « Je le répète, il ne s'agit pas d'une chasse, » dit-elle gravement. « Remisez vos réjouissances et vos fanfaronnades. Enlevez tous vos bijoux, toutes marques de rang. D'un cœur digne, réfléchissez à ce que nous allons faire. » Son accent des montagnes donnait encore du relief à son discours. Mais la partie intellectuelle de mon esprit observait le choix soigneux des mots, l'équilibre de chaque phrase. « Nous ne partons pas à la chasse, » répéta-t-elle. « Nous allons récupérer nos morts et nos blessés. Nous allons donner le repos à ceux que les pirates rouges nous ont volés. Les pirates rouges ont gardé le cœur des forgisés et nous ont renvoyé leur corps pour qu'ils nous persécutent. Néanmoins, ceux que nous allons tuer aujourd'hui sont des Siduchés. Ce sont nos compatriotes. Mes soldats, je vous demande de ne décocher de flèches, de ne frapper à l'épée que pour tuer proprement. Je vous sais assez habile pour cela. Nous avons tous suffisamment souffert. Que chaque mort aujourd'hui soit aussi rapide et miséricordieuse que possible pour notre bien à tous. Serrons les dents et arrachons de notre flanc ce foyer d'infection avec la même résolution et les mêmes regrets que si nous amputions un membre gangréné de notre corps. Car telle est notre mission, non pas vengeance, mon peuple, mais chirurgie et guérison. À présent, faites ce que j'ai dit. » Quelques minutes durant, sans bouger, elle nous regarda tous. Comme dans un rêve, les gens commencèrent à réagir. Les chasseurs ôtèrent plumes et rubans, insignes et joyaux de leurs vêtements, et les remirent à des pages. L'humeur joyeuse et farouche s'était évaporée. La reine avait anéanti cette protection, forcé chacun à voir en face l'acte qu'il allait perpétrer, et nul ne s'en réjouissait. La foule était dans l'attente de ses prochaines paroles. Ketriken conserva un silence et une immobilité absolue, si bien que tous les yeux finirent par revenir sur elle. Quand elle vit qu'elle avait l'attention générale, elle reprit. « Très bien. À présent, écoutez-moi. Je désire des litières tirées par des chevaux ou des chariots, ce que vous autres des écuries estimerez le plus adapté. Tapissez-les de paille épaisse. La dépouille d'aucun des nôtres ne restera pour nourrir les renards, ni servir de pâture aux corbeaux. Toutes seront ramenées ici, leurs noms notés si l'on peut le connaître, et préparées pour le bûcher funéraire qui honore ceux qui sont tombés au combat. Les familles, si l'on peut les retrouver, et si elles sont proches, seront invitées pour le deuil. À celles qui habitent trop loin, on fera parvenir un message, ainsi que l'hommage dû à ceux qui ont perdu un des leurs à la bataille. » Les larmes coulaient sur ses joues, et elle ne faisait pas un geste pour les essuyer. Elle scintillait comme des diamants au soleil du début d'hiver. Sa voix se fit rauque lorsqu'elle se tourna vers un autre groupe. « Mes gens de cuisine et de service, Dressez toutes les tables de la grande salle et préparez un banquet funèbre. Portez de l'eau, des herbes et des vêtements propres dans la petite salle afin que l'on puisse apprêter les corps de nos compatriotes pour la crémation. Tous les autres, délaissez vos tâches ordinaires, allez chercher du bois et montez un bûcher. Nous reviendrons brûler nos morts et les pleurer. »
Elle promena son regard sur la foule, en s'arrêtant sur chacun. Ses traits se durcirent. Elle dégaina son épée et la pointa vers le ciel.
« Quand le deuil sera fini, nous nous organiserons pour venger les nôtres. Ceux qui nous ont pris, nos parents, connaîtront notre colère. »
Lentement, elle baissa son épée et la remit soigneusement au fourreau. À nouveau, elle posa sur nous un regard empreint d'autorité.
« Et maintenant, à cheval, mon peuple !»
J'en avais la chair de poule. Autour de moi, hommes et femmes se mettaient en selle et un équipage de chasse se formait. Avec un minutage impeccable, Burick apparut à côté du chariot. Pas de loup au bout d'une bride, scellé, prête à être monté. Je me demandais où il avait déniché un harnais rouge et noir, couleur du deuil et de la vengeance. Peut-être qu'Étriken l'avait-elle requis, à moins qu'il n'ait devancé son désir. Du chariot, elle s'installa sur son cheval, qui ne broncha pas malgré la monte inhabituelle de sa cavalière. La reine leva une main prolongée d'une épée. Les chasseurs se massèrent derrière elle.
« Arrête-la !»
siffla Royal derrière moi. Je me retournai brutalement et me trouvai nez à nez avec lui et Vérité, que personne ne semblait remarquer.
« Non !»
répondis-je avec témérité.
« Vous ne sentez donc rien ?
Ne gâchez pas cette occasion. Elle leur donne quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qui leur manque à tous depuis longtemps. » « La fierté, » dit Vérité de sa voix grondante.
« C'est ce qui nous manquait, et à moi surtout. C'est une reine qui se tient devant nous, »
poursuivit-il avec une vague stupeur. « Était-ce une pointe de jalousie que j'avais aussi perçue ? » Il fit lentement demi-tour et rentra sans mot dire dans la forteresse.
Derrière nous, le tumulte des voix grandit et les gens se précipitèrent pour répondre aux ordres de Quetriken.
Je suivis Vérité, abasourdi par ce que je venais de voir. Royal me dépassa en me bousculant et d'un bond se planta devant Vérité. Il tremblait d'indignation. Mon prince s'arrêta.
« Pourquoi l'as-tu laissé faire ? Tu n'as donc aucune autorité sur cette femme ? Grâce à elle, nous sommes la risée de tous. » Mais que se croit-elle pour donner des ordres et emmener une garde armée du château ? Qui se croit-elle pour prendre des décisions sans en référer à personne ?
De fureur, la voix de Royal se cassa.
« Mon épouse, »
répondit Vérité d'un ton mesuré, « est ta reine servante, celle que tu as choisie.
Père m'avait assuré que tu choisirais une femme digne d'être reine. Je crois que tu as fait un meilleur choix que tu ne le pensais. » « Ton épouse, ta perte, crétin ! Elle sape ton autorité, elle te tranche la gorge pendant que tu dors, elle vole l'amour du peuple, elle se crée son propre nom. Tu ne t'en rends pas compte, imbécile ? Ça te convient peut-être de voir cette mégère de montagnarde accaparer la couronne, mais pas à moi !»
Je me détournai en hâte pour relasser ma botte, afin de ne pas voir le prince Vérité frapper le prince Royal. Ce que j'entendis néanmoins évoquait fort une gifle retentissante et un cri de fureur étouffé. Quand je relevai les yeux, Vérité paraissait toujours aussi calme, tandis que Royal était plié en deux, une main sur la bouche et le nez.
Le roi servant, Vérité, ne tolère pas qu'on insulte la reine servante Quetriken,
ni lui-même.
Je dis que madame a réveillé la fierté en nos soldats, et peut-être attisé la mienne aussi.
Vérité parut vaguement surpris de ses propres propos.
Le roi, on entendra parler!
Royal retira la main de son visage et prit une mine effrayée en la voyant couverte de sang. Il la montra, tremblante, à Vérité.
« Mon père verra ce sang que tu as versé !»
dit-il d'une voix chevrotante, avant de s'étouffer sur le sang qui lui ruisselait dans la bouche. Il se pencha en avant en tenant sa main souillée loin de lui, comme pour éviter de maculer ses habits.
« Comment ? Tu as l'intention de saigner jusqu'à cet après-midi en attendant que notre père se lève ? Sais-tu réussi cet exploit ?
Passe aussi chez moi, je voudrais voir ça. » Puis à moi.
« Fitz, tu n'as rien de mieux à faire que de rester le bec ouvert. File veiller à ce que les ordres de madame soient bien exécutés. »
et il s'en alla à grandes enjambées dans le couloir. Pour ma part, je m'empressai de me mettre hors de portée de Royal. Il resta seul à taper du pied et à jurer comme un enfant qui pique une grosse colère. Ni Vérité ni moi ne revînmes sur nos pas, mais j'espérais qu'aucun serviteur n'avait assisté à la scène. Ce fut une longue et curieuse journée. Vérité rendit visite au roi subtil, puis s'enferma dans sa chambre aux cartes. J'ignore ce que fit Royal. Tout le petit peuple du château s'activa à répondre aux désirs de la reine. Rapidement, mais presque sans bruit, en échangeant à mi-voix des commérages, tout en apprêtant les deux salles, l'une pour le banquet, l'autre pour les dépouilles. Je notai une nouveauté. Les femmes de la noblesse, qui s'étaient montrées le plus fidèles à la reine, faisaient désormais l'objet de toutes les attentions de leurs consoeurs, comme si elles étaient des ombres de Kétriken. Et ces dames de haute naissance n'hésitaient pas à se rendre à la petite salle pour surveiller la préparation de l'eau parfumée d'herbes et l'étendage des serviettes et des linges. Je participais moi-même au ramassage du bois pour le bûcher funéraire. En fin d'après-midi, les chasseurs revinrent. Ils avançaient en silence, encadrant solennellement les chariots. Kétriken chevauchait à leur tête. Elle paraissait fatiguée et saisie d'un froid qui ne devait rien à l'hiver. J'aurais aimé aller auprès d'elle, mais préférais laisser l'honneur à Burik de prendre sa jument par la bride et de l'aider à mettre pied à terre. Ses bottes et le garrot de pas de loup étaient éclaboussés de sang frais. Ce qu'elle avait ordonné à ses soldats, elle l'avait fait elle-même. D'un murmure, Kétriken envoya les gardes faire toilette et se peigner les cheveux et la barbe avant de revenir vêtue de frais dans la salle. Comme Burik emmenait pas de loup, Kétriken se retrouva momentanément seule. Elle était lasse, lasse à en mourir. Je m'approchai sans bruit. « Si vous avez besoin de moi, madame reine, » dis-je à mi-voix. Elle ne se retourna pas. « Je dois m'en occuper moi-même, mais ne vous éloignez pas en cas de nécessité. » Elle avait parlé si bas que nul autre que moi n'avait pu l'entendre, j'en suis certain. Elle se mit en marche, et le peuple du château s'écarta devant elle. Elle acquiesçait gravement aux têtes qui s'inclinaient sur son passage. Elle traversa les cuisines en silence, approuva de la tête les plats disposés sur les tables, puis pénétra dans la grande salle et manifesta là aussi son approbation devant les préparatifs. Dans la petite salle, elle s'arrêta un instant, puis ôta sa coiffe de laine aux teintes vives et sa veste pour laisser apparaître une simple chemise de toile violette. Elle remit sa coiffe et sa veste à un page ahuri de tant d'honneur. Elle alla se placer au bout d'une des tables et se mit à retrousser ses manches. Tout mouvement cessa dans la salle, et toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle croisa nos regards stupéfaits. « Apportez nos morts, » dit-elle simplement. Les corps pitoyables apparurent en une douloureuse procession. Je ne les comptais pas. Il y en avait plus que je ne m'y attendais, plus que les rapports de Vérité ne l'avaient prêté à croire. Sur les talons de Kétriken, je portais la cuvette d'eau tiède et parfumée, tandis qu'elle passait d'un cadavre à l'autre, baignait doucement les visages ravagés et fermait pour toujours les yeux tourmentés. D'autres personnes nous suivaient en un cortège sinueux, et chaque corps était délicatement dévêtu, lavé des pieds à la tête, peigné et emmailloté de tissus propres. Au bout d'un moment, je m'aperçus que Vérité nous avait rejoint, un jeune scribe à ses côtés, et qu'il passait d'une dépouille à l'autre pour noter les noms de ceux, rares, que l'on identifiait, et rédiger une remarque rapide sur les autres. Je fournis personnellement l'un des noms, celui de Kerry. Les dernières nouvelles que nous avions eues de lui, Molly et moi, le disaient apprenti d'un marionnettiste. Il avait fini sa vie sans guère plus de liberté qu'un pantin. Sa bouche rieuse était figée pour l'éternité. Enfant, nous avions fait ensemble des commissions pour gagner un ou deux sous. Il était à mes côtés la première fois que je m'étais enivré à m'en faire vomir, et il avait tant ri que son propre estomac l'avait trahi à son tour. C'est lui qui avait coincé un poisson pourrissant sous les tréteaux de la table d'un tavernier, lequel nous avait accusé de chapardage. Seul, désormais, je me rappellerai les jours que nous avions partagés. J'eus soudain l'impression d'avoir perdu un peu de ma substance. Un fragment de mon passé avait disparu, forgisée. Quand nous eûmes fini et que nous nous retrouvâmes tous debout à regarder les tables couvertes de cadavres, Vérité s'avança pour lire dans le silence de la salle la liste qu'il avait dressée. Rares étaient les noms, mais il ne négligea pas les inconnus. Un jeune homme, la barbe récente, les cheveux noirs, les marques du métier de pêcheur sur les mains, dit-il de l'un, et d'une autre, une femme, les cheveux bouclés, avenantes, tatouée de l'emblème de la guilde des marionnettistes. Nous écoutâmes la litanie de tous ceux que nous avions perdus. Et si l'un d'entre nous ne pleura pas, c'est qu'il avait un cœur de pierre. Comme un seul homme, nous prîmes nos morts et les transportâmes au bûcher pour les déposer délicatement au sommet de leur dernière couche. Vérité en personne apporta la torche pour l'enflammer, mais il la donna à la reine qui se tenait auprès de l'empilement de bois. Comme elle mettait le feu aux rameaux enduits de poix, elle lança aux cieux obscurs « Nul ne vous oubliera jamais !» La foule répéta son cri. L'âme, le vieux sergent attendait près du bûcher, des ciseaux à la main pour prélever sur chaque soldat une longueur de doigt de cheveux, symbole du deuil pour un camarade tombé au combat. Vérité se joignit à la file, et Kétriken se plaça derrière lui pour offrir une boucle de ses cheveux clairs. Suivit une soirée comme je n'en avais jamais connue. Presque tout bourg de Castelserre monta au château cette nuit-là, et chacun put entrer librement. À l'exemple de la reine, tous observèrent le jeûne jusqu'à ce que le bûcher ne fût plus qu'osse et cendre mélangée. Alors, la grande salle et la petite s'emplirent de monde, et l'on disposa des planches en guise de table dans la cour pour ceux qui n'avaient pas trouvé de place à l'intérieur. On sortit des tonnelets des caves et du pain, de la viande rôtie et d'autres mets en quantité que je n'aurais jamais cru Castelserre capable de renfermer. Plus tard, je devais apprendre qu'une grande partie de ces victuailles venait de la ville, spontanément offerte par les habitants. Le roi descendit de ses appartements pour la première fois depuis des semaines et prit place sur son trône à la tête de la table haute pour présider le banquet. Le fou se présenta lui aussi. Il se tint en retrait du roi, un peu décalé, pour recevoir dans son assiette ce que le roi lui donnait. Mais ce soir-là, il ne chercha pas à égayer Subtil. Il garda pour lui ses jacasseries bouffonnes, et les grelots de ses manches et de sa coiffe, emmaillotés de tissu, n'émettaient nul tintement. Nos regards ne se croisèrent qu'une fois durant le banquet, et je ne lus dans ses yeux aucun message discernable. Vérité se trouvait à la droite du roi, Kétriken à sa gauche. Royal était là aussi, naturellement, vêtu d'un costume noir si somptueux que seule sa couleur évoquait le deuil. La mine renfrognée, il buvait en faisant la moue, ce qui, je suppose, pouvait passer auprès de certains pour une manifestation de chagrin. Pour ma part, je sentais la fureur bouillonner en lui, et je savais que quelqu'un, quelque part, paierait pour ce qu'il considérait comme une injure personnelle. Même Patience était présente. Elle, dont les apparitions étaient aussi rares que celles du roi. Et je fus sensible à l'unité d'intention que nous affichions tous. Le roi mangea peu. Il attendit que les convives de la table haute fussent rassasiés avant de se lever pour prendre la parole. Ses propos furent repris et répétés par les ménestrels aux tables basses, dans la petite salle et jusque dans la cour du château. Il évoqua brièvement nos compatriotes, victimes des pirates rouges, mais ne parla pas des forgisations, ni de l'événement de la journée, la chasse aux forgisés et leur massacre. Non, il s'exprima comme s'il venait de périr au cours d'une bataille contre les pirates rouges, et dit seulement que nous ne devions pas les oublier. Puis, plaidant la fatigue et la peine, il quitta la table pour regagner ses appartements. Ce fut au tour de Vérité de se lever. Il ne fit guère que répéter le discours de Kétriken, déclarant que l'instant était à pleurer nos morts, mais qu'une fois le deuil achevé, nous devrions nous apprêter à la vengeance. Il manquait à ses propos le feu et la passion qui avait mis Kétriken, mais tous les convives y réagirent néanmoins. Les gens hochaient vigoureusement la tête en échangeant des réflexions à voix basse, tandis que Royal remâchait sa rancœur en silence. Kétriken et Vérité prirent congé du banquet tard dans la nuit. Elle, appuyée à son bras, afin que tous vissent bien qu'ils s'en allaient ensemble. Royal resta à boire en marmonnant dans sa barbe. Je m'éclipsai peu après le départ de Kétriken et Vérité et montai dans ma chambre. Sans chercher le sommeil, je me jetai sur mon lit et m'absorbai dans la contemplation du feu. Quand la porte secrète s'ouvrit, je grimpai aussitôt l'escalier qui menait aux appartements d'Imbre. Je le trouvai en proie à une surexcitation communicative. Ses joues pâles et grêlées avaient une nuance rosée. Il était échevelé et ses yeux verts étincelaient comme des joyaux. Il arpentait la pièce à grands pas, et lorsque j'arrivais, il alla jusqu'à me serrer dans ses bras en un geste maladroit. Puis il se recula et éclata de rire devant mon expression ahurie.
« C'est une reine née ! Elle est faite pour régner ! Et elle en a miraculeusement pris conscience ! Ça ne pouvait pas mieux tomber ! Elle va peut-être nous sauver tous !»
Sa joie avait quelque chose de déplacé, et je ne pus m'empêcher de protester. « Des gens sont morts aujourd'hui. »«
Exact, mais pas en vain. Ces morts n'étaient pas inutiles, Fitz-Chevalerie. Par elle et par Edda, Kétriken a l'instinct et la grâce. Je ne l'avais pas senti. Ah, si ton père était toujours en vie, mon garçon, et s'ils étaient mariés, nous aurions des souverains capables de tenir le monde dans le creux de leurs mains. »
Il prit une nouvelle gorgée de vin et se remit à faire les 100 pas. Jamais je ne l'avais vu aussi enthousiaste. C'est tout juste s'il n'esquissait pas des entrechats. Sur une table proche était posé un panier couvert dont le contenu avait été sorti et disposé sur une nappe. Vin, fromage, saucisses, condiments et pain. Ainsi, même dans la solitude de sa tour, Imbre avait participé au banquet funèbre. La tête de rôdeur la belette apparut soudain à l'autre bout de la table, et l'animal me jeta un regard glouton par-delà la nourriture. La voix d'Imbre interrompit mes réflexions.
« Elle a le même talent qu'avait Chevalerie, l'instinct qui permet de saisir l'occasion et de la tourner à son avantage. À partir d'une situation catastrophique et apparemment inévitable, elle a fait une tragédie sublime, alors qu'un autre, moins doué, n'en aurait tiré qu'un simple massacre. Mon garçon, nous avons enfin une reine à Castelserre !»
Je me sentis vaguement écœuré devant sa joie. Et l'espace d'un instant, trompé. D'un ton hésitant, je demandai. « Vous croyez vraiment que la reine a fait tout ça pour la galerie ? Que ce n'était qu'un geste calculé à des fins politiques ?» Il s'immobilisa soudain et réfléchit brièvement.
« Non, non, Fitz-Chevalerie. Je crois qu'elle a obéi à ce que lui commandait son cœur. Mais ça n'en est pas moins tactiquement génial. Oh, tu me juges insensible, indifférent par ignorance, mais la vérité, c'est que j'en sais trop. Au contraire, je sais bien mieux que toi l'importance de cette journée pour nous tous. Des hommes sont morts aujourd'hui. Je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas non plus que 6 de nos soldats ont été blessés, sans gravité pour la plupart. Je puis te dire combien de forgisés ont péri, et dans un jour ou deux, je pense connaître le nom de chacun, ou presque, nom que je possède déjà sur l'inventaire que j'ai dressé des pertes infligées par les pirates rouges. C'est moi, mon garçon, qui veillerai à ce que l'or du sang soit versé aux familles survivantes. Je leur dirai que le roi considère leur mort comme les égaux de ses soldats qui meurent en combattant les pirates et qu'il demande instamment leur aide pour les venger. Ce ne seront pas là des missives plaisantes à écrire, Fitz, mais je les écrirai néanmoins de la main de Vérité, et elles porteront la signature de Subtil. Croyais-tu vraiment que je ne faisais que tuer pour mon roi ?
Je vous demande pardon, mais vous paraissiez si joyeux quand je suis entré.
Et je le suis, comme tu devrais l'être toi-même. Nous n'avions plus de gouvernail, les vagues nous ballottaient, nous martelaient, et les vents nous poussaient à leur gré. Et voici qu'arrive une femme qui prend la barre et indique le cap. Et ce cap me convient tout à fait. Comme il conviendra à tous ceux de notre royaume qui sont fatigués de nous voir à genoux depuis des années. Nous redressons la tête, mon garçon. Nous nous relevons pour nous battre.
Je compris alors que son effervescence était en réalité la crête d'une lame de fureur et de chagrin. Je me rappelais son expression à notre entrée dans Forge, ce jour noir où nous avions vu ce que les pirates avaient laissé de nos compatriotes. Il m'avait dit en cette occasion que j'apprendrais à me soucier d'autrui, que c'était dans mon sang, et je perçus soudain la véracité de son sentiment. Je saisis un verre, et nous bûmes à la santé de notre reine. Puis Imbre, reprenant son calme, m'exposa la raison pour laquelle il m'avait fait venir. Le roi, subtil lui-même, avait réitéré l'ordre que je veille sur Kétriken.
« Oui, » fis-je, « je voulais justement vous parler du fait que Subtil répète parfois un ordre qu'il a déjà donné ou un commentaire qu'il a déjà fait. »«
Je le sais, Fitz. On fait tout ce que l'on peut à ce propos, mais nous traiterons de la santé du roi une autre fois. Pour le moment, je puis personnellement t'assurer que la répétition de son ordre n'était pas le radotage d'un esprit débile. » Non, le roi a émis cette requête aujourd'hui, alors qu'il s'apprêtait à descendre au banquet. Il la répète afin d'être sûr que tu redoubleras d'efforts. Il se rend compte, comme moi, qu'en réveillant la conscience des gens et en les incitant à la suivre, la reine s'est fort exposée. Naturellement, il ne le dirait pas aussi ouvertement. Tiens-toi sur tes gardes pour la sécurité de la reine.
Royal, grondai-je.
« Le prince royal ?» demanda Imbre.
« C'est lui qui est à redouter, surtout maintenant que la reine est en position de pouvoir.
Je n'ai rien dit de tel, et tu devrais t'en abstenir, »
fit Imbre à mi-voix. Son ton était calme, mais son expression sévère.
« Et pourquoi ? » lançai-je avec défi. « Pourquoi ne pourrions-nous pas, une fois au moins, nous parler franchement ?»
L'un à l'autre, peut-être, si nous étions absolument seuls, et si le sujet ne concernait que nous deux. Mais tel n'est pas le cas. Nous sommes les hommes liges du roi, et les hommes liges du roi ne nourrissent nulle pensée de trahison, et encore moins.
Il y eut un bruit de régurgitation, et Rôdeur vomit sur la table, près du panier aux victuailles. Il s'ébroua en faisant voler des gouttes de salive.
« Misérable petit glouton, tu t'es étranglé, c'est ça ?»
fit Imbre, sans guère prêter attention à l'incident. J'allais chercher un chiffon pour nettoyer les dégâts, mais quand je revins, Rôdeur était couché sur le flanc, haletant, et Imbre enfonçait une brochette dans les vomissures. L'odeur me mit le cœur au bord des lèvres. Imbre refusa mon chiffon, s'empara de Rôdeur et me tendit la petite bête agitée de frissons.
« Calme-le, et fais-lui boire de l'eau, » m'ordonna-t-il sèchement.
Et à la belette.
« Allons, mon vieux, va avec Fitz, il va s'occuper de toi. »
Je portai la petite créature auprès du feu, où elle acheva de vomir sur ma chemise. De près, l'odeur était épouvantable. En posant Rôdeur pour enlever mon vêtement souillé, je sentis une odeur sous-jacente, plus âcre encore que le vomi. À l'instant où j'ouvris la bouche, Imbre confirma mes soupçons.
Des feuilles de Varta réduites en poudre. Les épices des saucisses en dissimulaient le goût. Espérons que le vin n'a pas été empoisonné lui aussi, sans quoi nous sommes morts.
Tous les poils de mon corps se dressèrent. Imbre me vit pétrifié d'horreur et s'approcha pour récupérer Rôdeur. Il lui mit une secoupe pleine d'eau sous le museau et parut satisfait de le voir y goûter.
Il va s'en tirer, je pense. Ce petit goinfre a dû se remplir la gueule, et il a mieux senti le goût du poison qu'un humain. Il a tout recraché. Ce qu'on voit sur la table a l'air d'avoir été mâché, mais pas digéré. C'est le goût qui a dû le faire vomir, pas le poison.
Je l'espère, fis-je d'une voix faible. Chacun de mes nerfs guettait la moindre réaction corporelle. Avais-je été empoisonné? Avais-je sommeil, la nausée, la tête qui tournait? Avais-je la bouche engourdie, sèche ou excessivement humide? Je me mis soudain à transpirer et à trembler.
Non, pas une crise.
Cesse, fit Imbre, sans élever le ton. Assieds-toi et bois un peu d'eau. C'est toi qui te crées ces réactions, Fitz. La bouteille était parfaitement fermée avec un vieux bouchon. Si ce vin a été empoisonné, ça remonte à des années. Je connais peu d'hommes assez patients pour empoisonner une bouteille de vin, puis la mettre à vieillir. Je pense que nous ne risquons rien.
Je pris une inspiration tremblante. Mais quelqu'un voulait que ça se passe autrement. Qui vous a apporté ces plats?
Imbre prit l'air dédaigneux. Je les ai préparés moi-même, comme toujours. Mais sur la table là, il y avait un panier destiné à Dame Tin. De temps en temps, des gens cherchent à gagner ses faveurs, car la rumeur veut qu'elle ait l'oreille du roi. Je ne pensais pas mon personnage susceptible de se faire empoisonner. « Royal, répétai-je, je vous l'ai dit, il croit que Dame Tin est l'empoisonneuse du roi. Vous avez été incroyablement négligent, vous savez bien qu'il impute la mort de sa mère à Dame Tin. Faut-il pousser la courtoisie jusqu'à tous nous laisser tuer? Il n'aura de cesse qu'il ne soit assis sur le trône. Et moi, je te le dis à nouveau, je ne veux pas entendre de ces propos séditieux. »
Ambre avait presque crié. Il s'installa dans son fauteuil et nicha Rôdeur sur ses genoux. La petite bête se redressa, se nettoya les moustaches, puis se roula en boule pour dormir. J'observais la main pâle d'Ambre qui caressait son petit compagnon, ses tendons saillants, sa peau parcheminée. Lui avait les yeux baissés sur la belette, le visage fermé. Au bout d'un moment, il reprit d'un ton calme. « Le roi avait raison. Nous devons tous redoubler de prudence. » Il leva vers moi un regard tourmenté. «
Veille sur tes femmes, mon garçon. Ni la naïveté, ni l'ignorance ne protègent contre des tentatives comme celle de cette nuit. Patience, Molly et même Brodette, trouve aussi un moyen subtil, de mettre Burick en garde. »
Il soupira et demanda, sans s'adresser à personne.
« Nos ennemis ne sont-ils pas assez nombreux déjà hors de nos murs ?»«
Plus qu'assez, » l'assurai-je. Mais je m'abstins de lui parler de Royal. Il s'ébroua.
« C'est une bien mauvaise façon d'entamer un voyage. »«
Un voyage ? Vous ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. Ambre ne quittait jamais le château. Enfin, pratiquement jamais. « Où ça ?»
Là où ma présence est nécessaire, mais à présent, j'ai l'impression qu'elle l'est presque autant ici. »
Il hocha la tête.
« Prends bien soin de toi pendant mon absence, mon garçon. Je ne serai pas là pour veiller sur toi. »
Et il ne voulut pas en dire davantage. Quand je sortis, il contemplait toujours les flammes, les mains posées de part et d'autre de Rôdeur. Dans l'escalier, je sentis mes jambes flageolées. L'attentat contre Ambre était un choc comme je n'en avais jamais éprouvé. Même le secret de son existence n'avait pas suffi à le protéger. Et il y avait d'autres cibles, plus faciles à atteindre et tout aussi chères à mon cœur. Je maudis ma forfanterie qui, plus tôt dans la journée, m'avait incité à faire étalage de ma robustesse devant Royal. Quel crétin j'avais été de le pousser à m'agresser. J'aurais dû me douter qu'il chercherait une victime moins évidente. Une fois chez moi, je me changeai rapidement, puis ressortis, pris l'escalier et montai tout droit à la chambre de Molly. Je frappai doucement à la porte. Pas de réponse. Je n'osais pas frapper à nouveau. L'aube serait là d'ici une heure ou deux. Les occupants du château dormaient pour la plupart, mais je ne tenais pas à ce que des yeux mal intentionnés me voient devant chez Molly. Cependant, j'avais besoin d'être sûr. Le verrou était mis, mais il n'avait rien de compliqué. Je m'en débarrassai en quelques secondes et décidai de lui en faire poser un plus efficace d'ici le lendemain. Silencieux comme une ombre, j'entrai dans la chambre et refermai la porte derrière moi. Un feu mourant brasillait dans la cheminée, répandant une vague brume de lumière dans la pièce. Je restai un moment sans bouger pour permettre à mes yeux de s'y habituer, puis m'avançai prudemment, en prenant garde de ne pas m'approcher de la lueur de la cheminée. J'entendis la respiration régulière de Molly dans son lit. Cela aurait dû me suffire, mais un démon me souffla qu'elle avait peut-être la fièvre et qu'elle était en train de sombrer dans le profond sommeil de l'empoisonnement. En me promettant de ne toucher que son oreiller pour juger si elle brûlait de fièvre ou non, pas davantage, je me dirigeai vers le lit à pas de loup. Là, je demeurai immobile. Dans la faible lueur des braises, je distinguais tout juste sa forme sous les couvertures. Il émanait d'elle une chaude et douce odeur de bruyère. Une odeur saine. Ce n'était pas la victime d'un empoisonnement qui dormait là. Je n'avais plus qu'à m'en aller.
« Dors bien, »
murmurai-je.
Sans bruit, elle se jeta sur moi. L'éclat des braises joua sur le poignard qu'elle tenait.
« Molly !»
criai-je, tout en détournant sa main avec mon avant-bras. Elle se figea. L'autre main ramenée en arrière, le poing serré, et l'espace d'un instant, plus rien ne bougea dans la pièce. Puis,
« De nouveau !»
fit-elle dans un sifflement furieux, et elle me flanqua un coup de poing dans le ventre.
Tandis que, plié en deux, je cherchais à reprendre mon souffle, elle descendit de son lit.
« Espèce d'idiot, tu m'as fait une peur bleue. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir mon verrou et d'entrer chez moi comme un voleur? Je devrais appeler la garde pour qu'on te jette dehors.
Non !»
fis-je, cependant qu'elle rajoutait du bois sur les braises et allumait une bougie.
« Je t'en prie, je vais sortir. Je ne voulais pas te faire du mal, ni t'ennuyer. Je tenais seulement à m'assurer que tout allait bien. »«
Eh bien non!
Tout ne va pas bien !»
rétorqua-t-elle à voix basse. Elle s'était tressé les cheveux en deux nattes pour la nuit et me rappelait vivement la petite fille dont j'avais fait la connaissance si longtemps auparavant. Mais ce n'était plus une enfant. Elle surprit mon regard et enfila une robe de chambre qu'elle noua à la taille.
« Je tremble comme une feuille. Je n'arriverai plus à fermer l'œil de la nuit.
Tu as bu, n'est-ce pas? Es-tu saoul? Que veux-tu ? »
Et elle marcha sur moi, la bougie brandie comme si c'était une arme.
« Non, » dis-je.
Je me redressai et tirai sur ma chemise pour la remettre d'aplomb. « Je te le promets, je ne suis pas ivre, et je n'avais pas de mauvaises intentions. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit qui m'a fait m'inquiéter de toi. J'ai cru bon de venir m'assurer que tu allais bien, mais je savais que Patience ne serait pas d'accord et je n'avais aucune envie de réveiller tout le château. Alors j'ai préféré entrer sans bruit et... » Elle m'interrompit d'un ton glacial.
« Le nouveau, tu jacasses comme une pie. »
C'était exact.
« Excuse-moi, »
dis-je, et je m'assis au coin du lit.
« Pas la peine de t'installer, » fit-elle menaçante. « Tu ne restes pas. Tu t'en vas, seul ou entre deux gardes. À toi de choisir. »
« Je m'en vais, » répondis-je, et je me relevai en hâte. Je voulais seulement savoir si tu allais bien.
« Je vais bien, » dit-elle, agacée. « Pourquoi n'irais-je pas bien ? Je vais aussi bien que la nuit dernière et que les 30 précédentes, au cours desquelles tu n'es jamais venu vérifier mon état de santé. Alors pourquoi cette nuit, justement ?»
Je pris une inspiration. Parce que, certaines nuits, les menaces se font plus précises que d'autres. Il se produit des incidents qui me font redouter des malheurs plus grands. Certaines nuits, il n'est pas recommandé d'être la bien-aimée d'Avatar. Sa bouche devint aussi inexpressive que sa voix lorsqu'elle demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je repris mon souffle, résolu à me montrer aussi honnête que possible. « Je ne peux pas te révéler ce qui s'est passé, mais j'ai cru que tu courais un danger.
Il faut que tu me fasses confiance quand je... Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé d'un bâtard ? Qu'est-ce qui te permet de m'appeler comme ça ?»
Ses yeux brillaient de colère. Je jure que je sentis mon cœur cesser brutalement de battre dans ma poitrine. Le froid de la mort s'insinua en moi.
« C'est vrai, je n'en ai pas le droit, » dis-je en bégayant.
« Mais je suis incapable de m'empêcher de penser à toi. Et que j'ai ou non le droit de t'appeler ma bien-aimée, cela ne ferait pas hésiter ceux qui voudraient me faire du mal en s'en prenant à toi. Comment te faire comprendre que je t'aime tant que je voudrais ne pas t'aimer ? Ou au moins ne pas montrer tant que je t'aime, parce que mon amour te met en danger, et faire que cela soit vrai. » Avec raideur, je me détournais pour sortir.
« Et comment pourrais-je prétendre avoir compris un traître mot de ce que tu viens de dire, et de faire que ce soit vrai ?»
dit Molly. Quelque chose dans sa voix me fit faire demi-tour. L'espace d'un instant, nous restâmes à nous regarder. Soudain, elle éclata de rire. Je restais sans bouger, vexé, morose, tandis qu'elle s'approchait de moi sans cesser de rire. Puis, elle passa les bras autour de ma taille.
« Le nouveau,
tu as pris un chemin rudement détourné pour me dire enfin que tu m'aimais. Entrer chez moi par effraction, et ensuite rester planté là comme un ahuri à te tortiller la langue autour du mot « je t'aime », tu n'aurais pas pu le dire, tout simplement, il y a bien longtemps. » Raide comme un piquet, Hébété entre ses bras, je baissai les yeux sur elle. « Ah oui, » me dis-je vaguement, « tu es beaucoup plus grand qu'elle maintenant. » « Alors, » fit-elle pour me relancer, et je mis quelques secondes à comprendre. « Je t'aime, Molly. » C'était si facile, finalement. Et quel soulagement. Lentement, prudemment, je passai mes bras autour de ses épaules. Elle me sourit. « Et moi aussi, je t'aime. » Lors, enfin, je l'embrassai. Et à cet instant, quelque part non loin de Castelserre, un loup poussa un long hurlement joyeux, et tous les chiens et tous les molosses se mirent à aboyer en un chœur qui se répercutait contre le cristal du ciel nocturne.